faites partie du club. De Montréal, 514-790-0919. Partout ailleurs, 1-888-790-0919. Vous écoutez le Club du Matin sur BPM Sport.
Et on est de retour dans le Club du Matin, 8h41, très exactement. On est là jusqu'à 9h54. Pour les prochaines minutes, je veux laisser la place à Alexis parce qu'il poursuit son tour d'horizon de l'entre-saison des équipes de la Ligue nationale de hockey. Tu termines la section centrale et tu vas commencer la métropolitaine. On a trois équipes à faire et on a à peu près un 15-16 minutes. Alors, je te laisse y aller avec les Jets.
Ouais, on va devoir y aller un petit peu plus rapidement aujourd'hui. Et du côté des Jets, commençons de leur côté. Eux qui se sont fait éliminer au deuxième tour là, des séries l'an passé en 6 matchs contre les Stars après avoir mis la main sur le trophée des présidents.
Quelle saison ils ont eu en saison régulière.
Quelle saison des Jets, honnêtement, ça a été impressionnant, mais encore une fois, peut-être une petite déception en série. On a de la difficulté vraiment à reproduire les succès de la saison en éliminatoire et la raison principale
Je te vois arriver de plus en plus. Là.
C'est l'insuccès de Connor Hellebuyck. Ayons pas peur des mots, là, il a été vraiment mauvais, Hellebuyck, dans ces séries-là. Et ça fait 2 ans de suite là, que c'est un peu le même discours. Là. Puis du côté d'Hellebuyck, lui qui en plus avait gagné, écoute, 3 trophées cette saison, avait mis la main sur le Hart, le Vezina et le William Jennings. Et d'avoir autant peu de succès en série, il y a vraiment des questions à se poser sur... J'ai de la difficulté moi-même à expliquer pourquoi il y a autant de différences. Est-ce que c'est mental? Est-ce que c'est dans la tête? Écoute, j'en ai aucune idée, mais du moins c'est
un taux d'efficacité à 866 en séries éliminatoires. Ça, c'est du moins ce qu'il faut retenir. Là.
C'est du moins ce qu'il faut retenir. Non, honnêtement, c'est ça va pas très bien en série pour les Jets, mais il y a quand même du positif à regarder. Là, on a quand même eu une bonne saison, puis on devrait encore avoir une bonne saison l'année prochaine. Toutefois, ce qui a retenu l'attention le plus cet été, c'est bien évidemment la perte de Nikolaj Ehlers, qui se retrouve maintenant du côté des Hurricanes de la Caroline, lui qui a signé un long contrat sur le marché des joueurs autonomes. Donc ça, c'est clairement une perte là, qui va faire mal au niveau de l'offensive. On a aussi perdu des joueurs de profondeur, je pense à des Mason Appleton, des Brendan Tanev, Dominic Toninato notamment. Mais toutefois aussi, ce qui a retenu l'attention, un revenant à Jonathan Toews, lui qui a signé un contrat d'un an avec les Jets pour 2 millions de dollars.
Aller dans son coin de pays, de là où il est originaire au Canada, je suis content de le revoir. C'est juste qu'on ne sait pas trop ce qu'il en reste de Jonathan Toews.
Non, exact. Et il n'est pas jeune, hein, Jonathan Toews, quand même rendu à 37 ans. Donc lui, ça fait un bout là, qu'il n'a pas joué. Son dernier match, en fait, il faut remonter au 13 avril 2023. Donc ça fait plus de 2 ans. Ça va faire presque 2 ans et demi lorsque la saison débutera. Taze, justement, c'est mon premier joueur à surveiller chez les Jets de Winnipeg, puisque je pense que j'ai pas vraiment besoin de le dire. En fait, là, c'est d'une évidence qu'on va tous surveiller un peu son parcours cette saison. Comment est-ce qu'il va réagir à disputer une saison complète dans la LNH après autant d'absence, lui qui n'a pas disputé de hockey professionnel depuis son absence, justement. Toutefois, on risque quand même de lui confier des bonnes responsabilités chez les Jets cette saison. Là, ça risque d'être le deuxième centre de l'équipe. Adam Laurie, lui qui est blessé d'ailleurs, là, lui qui devrait manquer le début de la saison pour les Jets. Et on le sait, ben, en plus avec la perte de Ehlers, comme je l'ai mentionné, ça ouvre des portes sur un top 6. Donc,
tu vas surveiller Taves et tu vas surveiller aussi à l'autre bout du spectre un joueur beaucoup plus jeune, Cole Perfetti.
Ouais, vraiment à l'opposé. Lui qui est âgé de 23 ans, Perfetti, là, c'est le 10e choix au total des Jets en 2020. Cole Perfetti, c'est un joueur intéressant. C'est un attaquant qui progresse bien quand même depuis son arrivée avec les Jets. Ça se fait tranquillement quand même, sa progression, mais ça se fait bien quand même. Donc, on est passé d'avoir des saisons de 30 et 38 points à ses 2 premières années. Il est passé le cap des 50 points la saison dernière. Donc, une belle évolution dans son cas. Et pour revenir un peu à ce que je disais, ben, la perte de Nikolaj Ehlers va certainement créer une ouverture pour Perfetti sur ce top 6-là. Va avoir encore plus de temps de jeu cette saison. On risque peut-être même de lui confier un poste là, sur la première vague d'avantages numériques. Donc, lui qui joue également pour un prochain contrat, puisqu'il va être joueur autonome avec restriction à la fin de la saison. Donc, clairement, il va vouloir aller chercher peut-être un gros contrat là, après cette année. Donc, lui, je m'attends à une belle production offensive de sa part. Là.
Est-ce que les Jets terminent au premier rang de la section centrale l'an prochain?
Non.
Non?
Non.
Est-ce qu'il y a une suite?
Non, c'est... non, je t'arrête ça là. Non, mais oui, j'ai finalement et je me suis lancé à l'exercice de faire ce classement-là qui n'était pas facile. Et honnêtement, tu sais, c'est... ça pourrait aller d'un côté comme de l'autre. Là. C'est un classement que je fais aujourd'hui, le vendredi 1er août, mais ça se peut qu'on y revienne l'année prochaine et que ça soit
on y reviendra l'année prochaine.
Que ça soit bien différent. La seule chose que je suis convaincu, c'est que Chicago va terminer au 8e et dernier rang. Ça, je pense qu'il n'y a pas de débat là-dessus. J'ai mis les Preds au 7e rang, ça, on en avait parlé plus tôt cette semaine. Et par la suite, c'est là que j'ai commencé à inverser des équipes là, comparativement au classement de la saison dernière. J'ai le Wild en 6e position, j'ai le Mammoth en 5e, les Blues 4e, l'Avalanche 3e, les Jets 2e et les Stars 1er de la division.
Mammoth 5e?
C'est comme ça que je le vois. Ouais.
Mammoth 5e, est-ce qu'ils sont en éliminatoire selon toi? Parce que là, ça dépend aussi des deux autres. Tu sais, de l'autre côté, ça va être tout prêt pour le Mammoth. En tout cas, j'ai hâte de voir.
Je me souviens même pas du classement que j'ai fait nécessairement du côté de la division Pacifique, mais honnêtement, ça va être une course aux séries, honnêtement, effrénée de ce côté-là. Ça. Parce que, en fait, je vois 5 divisions dans la centrale. 5 équipes dans la division centrale, pardonne-moi, faire les séries, et j'en vois 3 du côté de la Pacifique, donc un peu le même scénario que cette saison. Donc, si on se fie en fait au classement que j'ai fait, le Mammoth sera en série. Mais maintenant, reste à voir, est-ce que le Wild terminera vraiment derrière eux ou il y aura une différence à ce niveau-là? Honnêtement, ça, j'ai eu beaucoup de difficultés à classer les deux équipes parce que c'est deux équipes qui ont le potentiel d'être au plus fort de cette course aux séries avec les Blues. Mais clairement, ce sera une division très corsée, la centrale, cette année-là.
On vient de faire donc les 16 équipes de l'Ouest. Attaquons-nous maintenant aux 16 équipes de l'Est.
Ouais,
on va terminer ça vendredi prochain, dans une semaine à peu près. On va avoir passer à travers les 16 équipes de l'Est, à commencer par les Flyers de Philadelphie dans la section métropolitaine. Les Flyers qui ont repêché très tôt Porter Marton et Jack Nesbitt, mais qui sont aussi allés chercher Trevor Zegras cet été.
Ouais, les Flyers qui ont été la pire équipe en fait là, dans la conférence de l'Est à égalité avec les Bruins la saison dernière. Tu l'as mentionné, écoute, on a quand même eu un été relativement chargé, si je peux dire ça comme ça, là, du côté de Daniel Brière. Et on essaie vraiment là, de se créer une nouvelle identité hein, chez les Flyers. On essaie d'aller chercher des joueurs gros format, gros gabarit, tu sais, des Porter Marton qui est listé à 6 pieds 3. Et Jack Nesbitt, ben, pour ceux qui le connaissent pas, qui le connaissent pas ou qui le connaissent un peu moins, lui, c'est 6 pieds 5, un joueur de centre. Donc vraiment, on essaie de se grossir à la position de joueur de centre. Et Jack Nesbitt, lui, qui avait terminé quand même dans les top marqueurs de sa ligue dans la Ligue canadienne. Donc, deux choix intéressants là, pour les Flyers au premier tour cette saison. Puis Trevor Zegras, lui, qui avait été acquis là, vers la fin du mois de juin, donc contre Ryan Peeling et des choix de deuxième et de quatrième ronde qui s'en vont du côté de Anaheim. Et bien, peut-être que pour pallier aussi à la perte de Ryan Peeling, je ne sais pas si c'est exactement pour ça, mais tout de même, on a mis sous contrat un joueur qu'on connaît bien ici à Montréal, Christian Dvorak.
Drôle de contrat quand même. Une seule année, ouais. Mais 5 millions. 5 millions, c'est beaucoup quand même, mais c'est sur un an seulement. Alors, on ne s'engage pas non plus à long terme.
Ben, autant des Flyers, on ne s'engage pas à long terme que je pense du côté de Christian Dvorak. Veut peut-être encore miser sur lui-même, croit peut-être qu'il a encore du bon hockey à offrir dans son réservoir. Peut-être qu'il s'attend aussi à avoir un rôle plus important chez les Flyers, ce qui pourrait l'aider à augmenter sa production offensive. Lui qui avait quand même connu, on va se le dire, une bonne fin de saison avec le Canadien, avait été pas trop mal en série non plus. Donc j'ai hâte de voir un peu sa progression, lui, sa saison du côté des Flyers. On a également aussi mis sous contrat le gardien vétéran Dan Vladar qui, lui, viendra épauler Samuel Harrison, puisqu'on sait que ça avait été un des problèmes principaux là, chez les Flyers l'an passé devant le filet avec des jeunes gardiens avec peu d'expérience, des Ivan Fedotov, Alexei Kolosov aussi. Donc, on avait un petit peu un trio de gardiens de but qui s'alternait devant le filet et ça n'a pas été très fructueux. Toutefois, j'aime quand même la profondeur qu'on est en train de se créer du côté des Flyers. Sans être le plus grand partisan de Christian Dvorak, viendra quand même ajouter une profondeur au poste de centre. Lui, on le sait qu'il était quand même un spécialiste des mises au jeu pour un gaucher. Et tu regardes aussi, on a quand même une troisième unité là, à l'offensive. En fait, je ne sais pas si ça sera le troisième ou le deuxième trio, ça c'est selon. Mais Tyson Forster, Noah Cates et Bobby Brink, c'est tous des jeunes joueurs. Et d'ailleurs, il y en a deux d'entre eux là, qui ont signé des prolongations de contrat cet été. Je pense à des Noah Cates, Tyson Forster et des contrats assez raisonnables aussi, ouais. Quand même, là, en dessous des 5 millions de dollars, 3,5 3.75 pour Forster, qui a quand même marqué, je pense, près de 30 buts la saison passée. Je crois qu'il était 25.
Je pensais qu'il allait commander un salaire un petit peu plus élevé.
C'est... Mais honnêtement, moi aussi, pour vrai, j'avais été surpris de voir ce contrat-là, mais c'est quand même juste
25
deux...
buts l'an dernier.
C'est ça, 25 buts. Donc, c'est quand même juste 2 ans aussi. Hein. Donc, lui aussi, je crois qu'il va pouvoir aller chercher quand même un plus gros contrat par la suite. On a également aussi là, mis sous contrat Cam York. Lui, on lui a octroyé un contrat de 5 ans, un petit peu plus de 5 millions par année. Donc, lui, on le voit vraiment là, comme peut-être l'un des piliers à la défensive du côté gauche pour les prochaines années, puisque c'est quand même assez faible à ce niveau-là chez les Flyers. Donc, même si je dis que j'aime la profondeur en attaque qu'on est en train de se créer, j'aime un peu moins cette brigade défensive là, qui est, mis à part Cam York, Drysdale et Sondheim, ben, c'est très faible.
Je veux t'entendre sur Trevor Zegras et Matvei Michkov, qui, pour des raisons bien différentes, mais les deux sont très intéressants à surveiller. On sait évidemment Michkov, la saison recrue qu'il a connue avec les Flyers, et Zegras qui arrive d'Anaheim après des années de tractation de transactions.
Ouais, ça fait longtemps qu'on en entend parler chez Trevor Zegras. Ces rumeurs de transactions-là ont finalement changé d'adresse. Et c'est un échange aussi qui n'a pas... qui a un peu pris tout le monde par surprise, je dirais, parce que il n'y avait pas nécessairement de rumeurs avec les Flyers qui couraient les jours précédant cette transaction-là. C'est un peu arrivé comme ça sur le vif, mais... je pense que du côté de Daniel Brière, là, on le voit vraiment que depuis son arrivée avec les Flyers, n'a pas peur, lui, des joueurs qui font un peu la controverse ou des joueurs qui vont, comment je pourrais dire, t'sais, des joueurs spécifiques offensivement qui ont peut-être certaines lacunes en défensive, mais lui, ça lui fait pas peur, Daniel Brière, on le sait, avec notamment la sélection de Matvei Michkov aussi.
De qui Olivier, sur la messagerie texte, nous dit « Matvei Michkov sans John Tortorella était très intéressant, et là, ce ne sera plus John Tortorella, mais bien Rick Tocchet qui va être là. »
Ben, justement, c'est un peu l'une des raisons aussi pourquoi j'ai mis Trevor Zegras, parce que lui, on le sait, bon, c'est pas nécessairement le joueur qu'on attend du côté d'Anaheim depuis son arrivée dans la LNH. Il a quand même connu 2 saisons au-dessus de 60 points à ses débuts. Par la suite, a commencé à se chercher. C'est beaucoup plus difficile depuis. Et je pense qu'avec la profondeur aussi qu'on commençait à se créer au centre, comme Martin Therrien nous en parlait tout à l'heure, n'avait plus vraiment de place là, dans l'échiquier des Ducks. Et un petit peu le même son de cloche que Olivier nous mentionne sur la messagerie texte pour Michkov. Je pense que Zegras, avec Tortorella, ça n'aurait pas très bien cliqué. Zegras, un joueur qui va essayer d'aller faire un Michigan, je pense pas que c'est dans...
Ça aurait bien cliqué, Tortorella l'aurait mis sur le banc, il l'aurait pas utilisé, c'est comme ça que ça aurait cliqué.
C'est exactement ça, donc je pense que c'est peut-être aussi l'une des raisons pour laquelle on est allé le chercher, parce que je suis pas certain qu'avec Tortorella, ça aurait nécessairement été la même chose, mais là, avec Rick Tocchet, qui lui, d'ailleurs, on le sait, a passé la partie de sa carrière là, du côté des Flyers en tant que joueur, donc ça risque de peut-être mieux fonctionner à ce niveau-là, et clairement, si on a été chercher Trevor Zegras, eh bien, c'est parce qu'on veut lui donner beaucoup d'opportunités là, d'essayer de se trouver, de relancer sa carrière, d'avoir un nouveau départ. Donc, j'ai quand même confiance que peut-être il pourra avoir une meilleure saison. Si c'est encore compliqué, toutefois, il va falloir se poser quelques questions sur son potentiel à long terme dans la LNH. Et pour Matvei Michkov, en terminant, ben lui qui vient de jouer sa première saison recrue, on le sait, a quand même une bonne saison en termes de production, là, a passé le cap des 60 points, 63 pour être exact, presque 30 buts avec 26. Là. Toutefois, Matvei Michkov, on a vu cette saison, c'est quand même un joueur de séquence. Hein. Il peut avoir des longs moments, une longue séquence de matchs sans produire offensivement, où est-ce qu'il va être un petit peu plus invisible sur le patinoire et par la suite peut revenir avec 5 matchs consécutifs en ayant inscrit, par exemple, un but, une passe ou en marquant le but vainqueur en prolongation. Donc, c'est un joueur qui fonctionne un petit peu plus par séquence, mais toutefois, je pense qu'il a quand même eu assez de succès cette saison pour pouvoir espérer une belle carrière dans la Ligue nationale avec les Flyers. Cette saison devrait voir son temps de jeu augmenter davantage aussi, là, sachant un peu plus à quoi s'attendre de lui. Donc, c'est un autre joueur là, que j'ai bien hâte de suivre la progression tout au long de la saison.
Les Flyers, tu les vois terminer au 7e rang de cette section métropolitaine. Ouais. L'équipe que tu vois terminer au 8e rang, c'est celle dont on va parler dans une seconde, les Penguins de Pittsburgh. Il nous reste 4 ou 5 minutes. C'est une équipe qui a beaucoup bougé cet été, mais je ne sais pas nécessairement vers où tout ça va rimer. On le sait, l'histoire des Pingouins, ils sont vieillissants, ils sont en fin de cycle et on n'a pas une banque d'espoir qui est si développée, même si on commence à la rebâtir, cette banque d'espoir. Là.
Exact. Non, du côté des Pingouins, ben c'est la raison là, pourquoi justement j'ai les Flyers qui passent du 8e au 7e rang parce que, bon, écoute, je vois pas les Pingouins là, ne terminer ailleurs qu'au dernier rang de la division. il y a des trous à grandeur de cet alignement-là. C'est pas compliqué, honnêtement. La défensive, c'est soit des joueurs vieillissants, comme notamment des Chris Letang ou Eric Karlsson, Matt Dumba, ce qu'on a été chercher, mais sinon, c'est des jeunes joueurs avec très peu d'expérience de la Ligue nationale de hockey. Et devant le filet, c'est un duo de gardiens, honnêtement, je trouve un peu douteux. Là, Tristan Jarry, c'est très difficile aussi à Pittsburgh depuis quelques années. Lui qui avait même été renvoyé dans le club école aussi, parce que justement, ça fonctionnait pas avec les Pingouins. Et lorsqu'on regarde en offensive, ben là, tu sais, il n'y a pas de punch pratiquement dans cette offensive-là, mis à part Crosby, Malkin et Brian Rust. On a mis sous contrat cette saison là, plusieurs joueurs de profondeur pour peut-être essayer un petit peu de combler ces trous-là. Je pense à D'Anthony Manta.
Ouais, il y a beaucoup de noms, mais tu te dis, OK, il y en a beaucoup, mais lequel là-dedans va vraiment faire une différence?
Il n'y a aucun nom de qualité en soi. T'sais, Anthony Manta, c'est pas le joueur que c'était en début de carrière. Justin Brazeau aussi qui s'amène. Raphaël Harvey-Pinard, mentionnons-le aussi, qui a signé un contrat.
On va lui souhaiter la meilleure des chances avec les Pingouins, tout
absolument.
Comme Anthony Manta aussi. Là.
Absolument, puis je pense que pour Raphaël, justement, écoute, si ça fonctionne pas au camp et qu'il se retrouve dans le club école, je pense qu'il aura quand même sa chance à un moment donné ou un autre dans la saison, puisque les Pingouins, justement, il y a plusieurs postes de disponibles là, qui vont être à avoir au camp d'entraînement. Et pour ce qui est des départs, eh bien, rien de très notable en soi non plus. Évidemment, il y a eu la transaction qui a envoyé Connor Timmins du côté de Buffalo. On a acquis Connor Clifton notamment en retour. Alex Nedeljkovic, lui, qui s'en va à San Jose. Vladislav Kolyachonok qui s'en va du côté des Stars. Et puis, on a laissé aller aussi là, Pierre-Olivier Joseph et Matt Nieto sur les agents libres. Donc, les Pingouins, ça a été la pire saison l'an passé en 11 ans. Donc, dans les 11 dernières saisons, si on exclut évidemment l'année COVID, je m'attends à ce que ce soit pire encore cette année. Donc, officiellement, là, on amorce une nouvelle ère du côté des Pingouins. Et
une ère qui inclut encore quand même Crosby, Malkin, Letang, Karlsson. D'ailleurs, Crosby, on le surveille. Je sais qu'il y a plein de gens qui rêvent de voir si Sidney Crosby pourrait être échangé. Je parle même pas d'être échangé à Montréal, juste d'être échangé, on sait même pas si ça va arriver un jour, mais pour le moment, ça reste un membre des Pingouins de Pittsburgh.
Ouais, on le sait depuis le début de ce segment dans notre émission. J'y vais souvent avec des jeunes joueurs dans mes joueurs à surveiller, mais écoute, il y en a tellement peu dans l'alignement des Pingouins qui sont intéressants que j'ai mis Sidney Crosby comme étant ce premier joueur à surveiller pour les raisons qu'on connaît tous. Est-ce qu'il passera la saison à Pittsburgh ou est-ce qu'il sera transigé? C'est la question que tout le monde se pose. On a entendu aussi dernièrement comme quoi il voudrait rester avec Evgeny Malkin jusqu'à temps que celui-ci termine avec les Pingouins. Donc, si on se fie à ça, bien, il devrait passer cette saison avec les Pingouins, à moins que Malkin soit aussi échangé à la date limite. Écoute, on le verra. Mais clairement, du côté des Pingouins, de toute façon, on vise plutôt la loterie cette année. Et même peut-être l'année prochaine aussi, où il y aura Landon Dupont de disponible. Mais
cette année, clairement,
on sera dans la loterie pour Gavin McKenna cette année. Ça serait quand même tout un coup de circuit là, de pouvoir passer le flambeau de Sidney Crosby à Gavin McKenna, un peu comme on l'avait fait avec Mario Lemieux et Crosby à l'époque aussi. Donc, ça sera à suivre. Écoute, pour Sidney Crosby cette saison, mine de rien, lui qui est encore dominant malgré son âge aussi. Sinon, Roger McGuarty, c'est le jeune joueur le plus intéressant de cette formation-là que je vais suivre cette année. Lui qui a été le 14e choix en 2022 par les Jets de Winnipeg, mais on le sait, ne voulait pas jouer avec les Jets, ne voulait pas s'entendre avec eux, avait demandé une transaction. Finalement, ben, les Pingouins ont été chercher ses services contre le jeune Braden Yeager qu'on a envoyé du côté inverse. Pour ce qui est de McGuarty, lui a fait le saut chez les pros l'an passé. Aurait peut-être pu bénéficier d'une troisième saison à l'université. Là, je ne sais pas si c'est d'accord avec moi, mais McGuarty, ça a été difficile au début de la saison dernière. Là, on l'a amené directement avec les Pingouins. C'est cherché un peu. Par la suite, on l'a envoyé avec le club école. Ça s'est quand même bien passé en bout de ligne là, avec
les Pingouins, Wilkes-Barre, Scranton.
Exact, 39 points en 60 matchs. Donc, quand même respectable pour une première saison. Et si on regarde là, juste rapidement, ben, avec les Pingouins, il a joué 8 matchs la saison passée, oui, amassé 3 points. Et puis, écoute, avec la saison, la situation en fait des Pingouins, comme on vient de le mentionner, clairement, McGuarty va avoir énormément de chances de se faire valoir cette saison. On risque de l'essayer un peu partout. Là, et clairement, à un moment ou un autre de la saison, pourrait jouer avec Sidney Crosby sur le premier trio. Donc, c'est un joueur que je vais aimer suivre cette saison et qui pourrait peut-être là, s'avérer être l'une des pièces de cette reconstruction des Penguins de Pittsburgh. Là.
Est-ce qu'on termine ça avec un bonne chance? C'est ça la conclusion?
Un bonne chance? Écoute, je ne sais même pas si c'est de la chance. Écoute, je pense que ça va être honnêtement une saison longue et pénible pour les partisans des Pingouins cette saison-là.
Merci beaucoup, Alexis, d'avoir commencé ce tour d'horizon des équipes de la Métropolitaine. On va poursuivre ça lundi et terminer là, vers la fin de la semaine avec les équipes de la section Atlantique qu'on surveille, dont une à Montréal en particulier, qui a eu un été quand même très intéressant à parler. Ça, on se garde ça pour vendredi prochain. Ce sera le dessert à la fin. Là.
Exact. On va se garder la majorité de ce segment pour parler des Canadiens. On se le garde pour la dernière journée.
Ouais?
Ouais, je pense que
OK, on va faire ça comme ça.